franceinter.fr.
Bonsoir à tous. Des singes et des hommes au bout des pots d'échappement des moteurs allemands. Des tests pour Volkswagen, BMW et Daimler qui font scandale à Berlin. Nous y sommes dès le début du journal. Quand plaider vous met en danger, une lycéenne en fait l'expérience sur les réseaux sociaux pour avoir dénoncé dans un concours le sort d'une minorité opposée au président turc. Au sommaire également ce soir, le mari de la joggeuse Alexia Daval, désormais suspecté de l'avoir tuée. Gérald Darmanin poussé à la démission mais soutenu par Matignon, après une nouvelle plainte pour viol, la reprise d'Ascometal qui laisse 300 salariés sur le carreau, 250 autres d'ici 3 ans selon les syndicats. Lilian Thuram en guide au musée contre les préjugés des artistes. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir Sébastien, peut-être auriez-vous aimé quand votre fille est née avoir un congé paternité plus long que les 11 jours qui vous sont accordés. C'est peut-être en train de changer, on y réfléchit au gouvernement. En tout cas, allonger et mieux rémunérer ce congé paternité pour que les pères profitent de leur enfant et que les mères soient peut-être moins pénalisées dans leur carrière quand c'est le cas. Et pourquoi pas aussi rendre ce congé obligatoire. 01 45 24 7000.
L'information scandalise toute l'Allemagne, des singes mais aussi des humains utilisés comme cobayes pour tester les gaz d'échappement des voitures. Les expériences ont donc eu lieu en 2014 pour le compte de Volkswagen, BMW et Daimler. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
25 personnes auraient respiré du dioxyde d'azote de ces moteurs diesel.
Une série de tests, oui, menés dans un institut hospitalier d'Aix-la-Chapelle. 19 hommes et 6 femmes ont donc été soumis à diverses concentrations de dioxyde d'azote. Selon l'institut mis en cause, ces expériences n'avaient rien à voir avec le scandale des diesels truqués. Il s'agissait à l'époque de mesurer l'effet de ces gaz sur le lieu de travail. Pourtant, cette nouvelle affaire, dévoilée par la presse allemande, vient jeter le doute après les révélations du New York Times il y a quelques jours, selon lesquelles des tests ont été menés sur une dizaine de singes en 2014. Aux États-Unis, des singes soumis pendant 4 heures au gaz d'échappement d'une voiture Volkswagen. Il s'agissait là de prouver que les normes anti-pollution étaient bien respectées. Difficile de ne pas faire le lien entre les deux affaires, car à l'origine de toutes ces expériences, on trouve le même centre de recherche financé par 4 poids lourds du secteur, Volkswagen, BMW, Daimler et Bosch. Tous ont tenté ces 2 derniers jours de prendre leur distance avec ces études contestées, mais pour le ministre allemand de l'Industrie, la confiance en l'industrie automobile est à nouveau écornée. Angela Merkel, quant à elle, a condamné tout à l'heure par la voix de son porte-parole des tests injustifiables sur le plan éthique.
Et Berlin demande à la commission d'enquête chargée du Dieselgate de se pencher sur ce nouveau scandale. Merci Cyril Sauvageau à Berlin. Volkswagen a reconnu fin 2015 qu'il avait truqué 11 millions de ses autos diesel. Son logiciel permettait de dépasser jusqu'à 40 fois les normes anti-pollution autorisées.
Une lycéenne de 18 ans menacée après un concours de plaidoirie.
Plaidoirie pour les droits de l'homme organisée chaque année depuis 29 ans par le mémorial de Caen. Son oral vendredi qui lui a valu le 2e prix mettait en lumière la situation des Alevis, la minorité musulmane stigmatisée en Turquie et à laquelle elle appartient. Sauf que depuis, elle fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas allée en cours aujourd'hui. Cécile Soulet.
Le ministère de l'Intérieur prend très au sérieux ces menaces, indique son avocat parisien. Il demande des mesures de protection renforcées. Au mémorial de Caen, la voix chargée d'émotion, la jeune femme de 18 ans a dénoncé le sort de la minorité Alevi en Turquie, minorité dont elle est issue.
Ce peuple minoritaire est persécuté depuis de nombreuses années. Comme ils ne respectent pas l'islam, les Alevis sont massacrés. Nous, citoyens de la République française, pouvons les aider, car nous savons les valeurs des droits de l'homme. C'est pour cela que je suis aujourd'hui devant vous, à vous parler de ce peuple, de mon peuple.
La jeune Mosellane a dû fermer son compte Twitter, submergé de menaces et d'insultes. Elle n'est pas retournée au lycée, mais l'établissement l'a assurée de tout son soutien. Même sentiment devant le lycée de cette élève de seconde.
Ça me choque.
La liberté d'expression, c'est important ?
Oui, c'est important. Surtout, il faut la respecter.
Mais à Famec, où vit une forte communauté turque, cette élève est beaucoup plus critique.
La vidéo, elle a attiré beaucoup d'attention pour les Turcs, parce que la plupart disent que ce qu'elle a dit, c'est pas vrai. Elle est ici, mais elle n'est pas en Turquie. On peut pas savoir ce qu'ils font en Turquie, parce qu'on est en France.
Le directeur du mémorial de Caen, lui, est stupéfait par le niveau de violence. Après la plaidoirie de la lycéenne, il se dit très attentif à sa sécurité. Le maire de Famec, de son côté, lui conseille de porter plainte. Cécile Soulet, France Bleu Lorraine pour France Inter.
Alexia Daval a-t-elle été tuée par son mari? Les gendarmes s'interrogent qui l'ont interpellée ce matin et perquisitionné son domicile. Alexia Daval, c'est cette joggeuse de 29 ans retrouvée brûlée dans un bois en Haute-Saône en octobre dernier. Les enquêteurs se demandent si une dispute conjugale a pu mal tourner. Jonathan Daval nie être lié au meurtre. Randall Schwerdorfer est son avocat.
Jonathan va pouvoir s'exprimer parce que les rumeurs persistent depuis longtemps. La famille d'Alexia soutient Jonathan, je tiens à vous le dire. Je vous rappelle aussi qu'il est présumé innocent et qu'avec mon associé, nous allons tout faire pour que Jonathan sorte de ses 48 heures de garde à vue libre. Il nie totalement les faits, il les a toujours niés et il a toujours la même position et il gardera cette position-là. S'il y a de nouveaux éléments, nous n'en avons pas connaissance, ça fait partie du jeu d'une instruction criminelle. On ne donne pas forcément tous les éléments aux avocats, notamment tant qu'il n'y a pas eu d'interpellation. Donc il y a peut-être de nouveaux éléments, en tout cas nous ne sommes pas au courant. J'ai pu m'entretenir une demi-heure avec lui. C'est un garçon très serein et même si pour lui c'est très difficile, c'est une épreuve très lourde, mais c'est quelqu'un qui reste très serein et qui a toujours la même question, c'est savoir qui a tué son épouse.
L'avocat de Jonathan Daval au micro de Jean-François Fernandez de France Bleu Besançon. Le mari d'Alexia Daval est désormais en garde à vue à la gendarmerie de Besançon. Aux assises du Puy-en-Velay, c'est le procès en appel de l'affaire Fiona qui recommence après la querelle d'avocats qui avait fait capoter la première audience en octobre. D'un côté, la mère, Cécile Bourgeon, condamnée à 5 ans de prison en première instance. Pendant des mois, elle a fait croire à un enlèvement. De l'autre, son ex-compagnon, Berkane Makhlouf, condamné lui à 20 ans de réclusion pour avoir porté les coups fatals. Et au milieu, bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Le corps de l'enfant, toujours introuvable, Corinne. Ce troisième procès lèvera-t-il le mystère de sa mort ?
Alors Cécile Bourgeon semble somnoler dans le box derrière la frange de cheveux blonds qui cache ses yeux. À ses côtés, Berkane Makhlouf, le teint grisâtre, nerveux. Il suit, lui, les débats avec attention. Quand le président rappelle la mort de Fiona, retrouvée, selon le récit des accusés, inanimée dans son lit, étouffée dans son vomi, l'homme bondit d'un bloc. J'ai tenté de la ranimer. Berkane Makhlouf estime avoir été condamné à tort en première instance. Il nie avoir porté le moindre coup à Fiona, reconnaît seulement ne pas avoir appelé les secours, puis être allé l'enterrer dans la forêt. On a décidé ça conjointement, dit-il. Interrogé à son tour, Cécile Bourgeon sort de sa torpeur pour asséner d'un ton sans réplique « Moi, jamais, jamais de ma vie, je n'ai frappé mes enfants. » Elle les énumère sur ses doigts, ni Fiona, ni sa petite sœur, ni le petit garçon qu'elle a eu avec Berkane Makhlouf. Non, je ne reconnais pas les coups mortels sur Fiona. Le ton baisse d'un cran quand on l'interroge sur les délits, recel de cadavres, destruction de preuves, dénonciation mensongère. Je ne sais pas trop ce que c'est, recel de cadavres. Oui, oui, finit-elle par reconnaître du bout des lèvres. Qu'est-il arrivé à Fiona ? À ce stade, les causes de sa mort restent donc un mystère. Mais le procès n'en est qu'à ses tout débuts. Deux nouveaux avocats sont aux côtés du père de Fiona, avec pour intention de questionner sans relâche Cécile Bourgeon.
Corinne Audouin, en direct des Assises de Haute-Loire. Le verdict est attendu dans 2 semaines.
Gérald Darmanin peut-il rester ministre des Comptes Publics ?
Question en débat depuis qu'il est visé par la réouverture d'une enquête pour viol, des faits qui remontent à 2009, que le ministre nie et qui ont déjà été classés sans suite l'été dernier. La porte est la seule solution pour ses anciens amis des Républicains. Mais le gouvernement le soutient, Yannick Falt.
Matignon a fixé la ligne dès samedi. Gérald Darmanin a été d'une transparence totale vis-à-vis des faits. Il a toute la confiance d'Édouard Philippe. Les règles fixant l'appartenance au gouvernement sont connues. Quelles règles ? Celles qui sont désormais rappelées en boucle par les ministres, dont Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, invitée ce matin de France Inter.
Richard Ferrand, Sylvie Goulard, François Bayrou avaient fait le choix personnel de démissionner pour pouvoir répondre à un certain nombre de mises en cause politiques et d'enquêtes qui étaient en cours. La règle, elle a été claire, elle a été expliquée par le président et le premier ministre, c'est à partir de la mise en examen.
Argument qui ne convainc pas l'opposition, ravi sans doute de s'en prendre à celui que beaucoup qualifient de traître, Gérald Darmanin étant l'un des transfuges de la droite au gouvernement, Laurence Saillé est l'une des porte-parole des Républicains.
Nous respectons la présomption d'innocence, mais compte tenu des graves accusations qui sont portées et pour la sérénité de l'action publique, nous pensons qu'il n'a pas d'autre choix que de démissionner.
Une démission que seuls les Républicains réclament pour l'instant, alors qu'à droite comme à gauche, beaucoup ont en tête le cas de Christophe Arendt, député marcheur faussement accusé de harcèlement et agression sexuelle.
Quand la France insoumise donne son avis sur les candidats à la tête du PS, si c'est Emmanuel Morel, on peut envisager un travail commun. Selon le coordinateur des campagnes du parti de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, le candidat de l'aile gauche au poste de premier secrétaire est favorable à une alliance de toute la gauche.
Sébastien Lecornu, à 500 mètres sous terre.
Oui, le secrétaire d'État à l'écologie a visité le futur site d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure, Cigéo, le centre industriel de stockage géologique, dont la phase de test doit démarrer en 2025, Anne-Laure Barral.
Cigéo, c'est la moins mauvaise des solutions en matière de gestion des déchets nucléaires. Voilà ce qui est venu dire Sébastien Lecornu aux élus locaux de la Meuse et de la Haute-Marne qui accueilleront peut-être bientôt le futur site de stockage de nos déchets les plus dangereux, les plus chauds et ceux qui resteront radioactifs pendant des dizaines de milliers d'années. Un projet qui suscite des contestations avec depuis 2 ans de nouveaux militants installés dans un bois juste au-dessus du futur site. Sébastien Lecornu n'a pas rencontré ses opposants cette fois-ci, mais il sait que le projet ne fait pas l'unanimité.
Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de discuter lors de ma prochaine venue avec des associations ou avec des élus locaux qui sont des opposants au projet. Et c'est la moindre des choses. Comme à Fessenheim, sur un autre sujet, j'ai été amené à discuter avec des gens qui étaient opposés à la fermeture de la centrale.
En revanche, le secrétaire d'État à l'écologie est venu parler retombées fiscales, sécurité et projet de territoire avec les élus. Pour Christophe Bouillon, député et président de l'ANDRA, l'agence de gestion des déchets radioactifs, le Grand Est a une carte à jouer avec ce site.
Si vous prenez une échelle plus large, l'échelle de la nouvelle région notamment, vous avez l'après Fessenheim, vous avez choses, vous avez un certain nombre, il y a une vraie filière énergétique qui peut se créer aujourd'hui.
Pas de remise en question du projet pour l'instant du côté du gouvernement, mais plutôt la mise en avant d'une cohérence de territoire pour lancer dans le Grand Est la filière française du démantèlement nucléaire et de la gestion des déchets.
La décrue a commencé à Paris, mais la Seine devrait encore monter à plusieurs endroits en aval de la capitale, dans l'Eure et la Seine-Maritime, à cause des coefficients de marée attendus, et sur les boucles du fleuve jusqu'au milieu de la semaine, à cause de l'Oise qui déborde aussi. 12 départements sont encore en vigilance orange inondation, dont la Saône-et-Loire, même si la décrue est amorcée aussi à Châlons. Dans la capitale, point culminant à 5,85 m, les 7 gares intramuros du RERC resteront fermées au moins une semaine encore. Depuis le début des mesures, il y a 50 ans, il n'avait jamais autant plu en France sur les mois de décembre et janvier. Il y aura encore quelques gouttes demain, prévision après le journal. Eux, c'est la foudre qui vient de leur tomber sur la tête. Les 300 salariés de l'acierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Emmanuel Macron leur avait promis qu'ils pouvaient dormir sur leurs deux oreilles, mais le site est écarté par le repreneur suisse du groupe Ascometal. Une annonce qui passe évidemment très mal, Raffaella Birivicente.
Coralie travaille avec son mari chez Ascoval, elle a du mal à digérer la nouvelle.
C'est pas facile quoi. Coup de massue ce matin. Tous les deux au chômage, 2 enfants, une maison à payer, pas facile. On a une aciérie qui est au top de la technologie quoi, elle est toute neuve, donc pour nous c'est du gâchis. Fermer une aciérie comme ça, on comprend pas quoi.
Et la fin de l'aciérie signifie la fin de la tuberie Valourec de Saint-Saulve pour Bruno Kobzinski, porte-parole de l'intersyndicale.
La tuberie est alimentée en énergie par l'aciérie, ce qui veut dire que là aujourd'hui on ferme les robinets, la tuberie arrête, ça veut dire 300 en plus. Sans compter qu'attaché à nous, il y a une 50aine d'entreprises sous-traitantes.
Beaucoup ici dénoncent l'attitude d'Emmanuel Macron qui avait promis de sauver l'aciérie en 2015 quand Vallourec cherchait un repreneur et qui la semaine dernière encore en visite chez Toyota avait rassuré les élus du Valenciennois avant de se désengager du projet Liberty. Nassim Bardi, délégué CGT, lui demande des comptes.
Faut arrêter de mentir, quand on est président de la République, on ne doit pas mentir, c'est tout. Et qu'il nous regarde droit dans les yeux, faut arrêter de jouer avec nos nerfs maintenant. Qu'il se débrouille, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs repreneurs qui sont venus. Donc nous, on veut une solution, le garantie de l'emploi.
Un message qui sera passé demain par les élus régionaux à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui les reçoit en urgence avec les représentants du groupe Vallourec et de Schmolz. Raffaella Birivicente, France Bleu Nord pour France Inter.
Le repreneur suisse prévoit aussi de fermer d'ici 2 à 3 ans le laminoir de Lefrancouc près de Dunkerque, 50 à 100 postes concernés, la scierie d'Agondange en Moselle et le train à fil de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Les syndicats redoutent 250 suppressions de postes. Mathieu Gallet, entendu pendant 3 heures au CSA, le PDG de Radio France, est venu défendre son poste après sa condamnation à 1 an de prison avec sursis pour favoritisme quand il dirigeait l'INA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit dire mercredi s'il le maintient ou le démet de ses fonctions. La reproduction des dauphins en captivité est de nouveau autorisée. Le Conseil d'État annule l'arrêté de Ségolène Royal signé en mai dernier pour vice de procédure.
Il est 19h14 sur France Inter. Gros plan maintenant sur la République démocratique du Congo.
Un conflit qui préoccupe moins la communauté internationale que la Syrie ou l'Irak. Et pourtant, il y a urgence humanitaire dans la province isolée du Kasaï où des querelles de pouvoir opposent les milices au président Kabila. Les combats auraient fait près de 4000 morts et fuir les populations. 3 200 000 personnes sont en insécurité alimentaire selon les Nations Unies. Et 400 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë. Mathilde Dehimi a suivi ceux qui tentent de revenir dans leur village près de Kamako.
Sa maison en Torchie n'a pas résisté aux coups des miliciens. Tout est à terre, brisé, brûlé. Tijika est venu déterrer son bananier. Il le plantera près de la maison où il s'est réfugié en ville.
J'étais diamantaire, mais je ne creuse plus. Je n'ai plus d'argent. On vit grâce à nos champs de manioc, mais tout a été pillé et je n'ai pas de semences à planter.
Tijika a passé 9 mois en brousse avant de rentrer, apprenant que les ONG comme Action contre la faim apportaient leur aide. Au début, raconte-t-il, les villageois faisaient confiance aux miliciens en lutte contre le pouvoir central.
Quand les Kamuinansapu sont arrivés, ils ont dit qu'ils allaient mieux organiser le village. Puis ils ont commencé à décapiter ceux qui n'étaient pas de leur tribu. Eux sont Luba, moi je suis Chokwe. On s'est enfui vers l'Angola. Regardez là, on a enterré mes deux voisins.
Plus bas, il ne reste que 3 murs du centre de santé. Le toit du second bâtiment a été reconstruit par Chenvul, le chef coutumier.
C'est pour loger les 140 personnes sur 7000 qui sont de retour. Une partie préfère rester à Kamako, les autres, je ne sais pas où elles sont.
Un pousseur de vélo exténué traverse le village, ses pieds s'enfoncent dans la glaise. Il va vendre son chargement au centre-bourg. La plupart des vélos ont renoncé, trop dangereux, trop de raquettes au barrage policier, privant un peu plus encore les habitants de nourriture.
Le Kassai affamé en République démocratique du Congo, la suite des reportages de Mathilde Dehimi, c'est à demain à 7h15 sur Inter, sur le site franceinter.fr en images, et demain soir également chez vous, Fabienne.
Absolument, ouais. Longuement dans Un jour dans le monde avec Mathilde, et les images, ce sont celles du photographe Guillaume Binet d'ailleurs.
C'est la 3e attaque en moins de 10 jours à Kaboul. Le groupe État islamique revendique celle de ce matin contre l'académie militaire de la capitale afghane. Il y a 5 morts et 10 blessés. Ils ont fui la répression. Ils risquent les inondations. Les Rohingyas réfugiés au Bangladesh, plus de 100 000 d'entre eux sont en danger dans les camps de fortune à la frontière avec la Birmanie qu'ils ont fui à cause de la mousson à venir et des possibles glissements de terrain. Les Nations Unies souhaitent qu'ils soient déplacés dans des zones plus sûres.
Quand les artistes véhiculent les clichés sexistes ou racistes.
C'est Lilian Thuram qui se transforme en guide et en commissaire d'exposition. L'ancien joueur de l'équipe de France de football commente des visites pour les jeunes au musée de la Croix à Paris jusqu'au mois de mars. L'exposition s'intitule Imagine et représentation de l'Orient, question de regard. Elle a été conçue avec la fondation de l'ancien footballeur. Et l'objectif, Isabelle Pasquier, c'est d'amener les plus jeunes à se questionner sur ce qu'ils regardent.
Casser les stéréotypes et ne pas confondre représentation, fantasme et réalité. C'est le nouveau but que veut marquer Lilian Thuram. Dans son costume gris et noir de guide et commissaire d'expo, on le retrouve devant la toile de Fantin Latour, Les Femmes d'Alger.
C'est l'artiste qui s'imagine la femme sensuelle et cette pose est extrêmement érotique. C'est la vision de l'artiste occidental qui représente les femmes d'Orient. Et donc ça finit par faire croire que les femmes d'Orient sont de cette sorte-là.
Le projet de l'exposition est ambitieux, montrer comment, à travers ces représentations de l'Orient, l'art a reflété, voire façonné des clichés.
J'aimerais que les enfants puissent se questionner, c'est-à-dire, voilà, ce tableau représente des femmes d'Alger, pourquoi l'orientalisme ? Qui construit l'orientalisme et montrer qu'effectivement, de la Croix, lorsqu'il visite le Maroc, cette idée d'orientalisme, c'est tout d'un coup, c'est que l'Occident se positionne dans une situation de domination.
Et dans ce décryptage des peintures, il n'est pas interdit de faire un rapprochement entre la représentation des odalisques orientales au 19e et la représentation sexiste des femmes dans les pubs d'aujourd'hui.
L'exposition s'appelle Imaginaire et représentation de l'Orient, question de regard. C'est donc jusqu'au 2 avril au musée de la Croix à Paris. Et puis la mort du compagnon de la libération Victor Démet, qui avait participé à la première campagne de Libye et à la prise de Damas en juin 41. Il s'éteint à 98 ans. Il ne reste que 9 compagnons de la libération encore en vie.
Sébastien Paour pour le journal. Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve demain. Le téléphone sonne, c'est dans un instant. Alerter les pères et alerter les bébés. On parle ce soir de congé paternité. 11 jours pour l'instant, plus les 3 jours de naissance. C'est bien peu, disent certains pères. On en parle donc ensemble dans un instant. 01 45 24 7000. La météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Elodie Calac, c'est souvent gris pour demain, voilà le programme.
Et oui, un réveil souvent sombre avec du brouillard, quelques gouttes sur la Bretagne, sur la Normandie. Le soleil, on le trouvera quand même en montagne, près de la Méditerranée aussi, avec un bémol pour la Côte d'Azur et le littoral de la Corse, où là, ça sera des nuages, des éclaircies au nord de la Seine. Et puis attention aux crues encore importantes sur le bassin de la Seine et ses affluents, sur la Saône. 12 départements sont toujours en vigilance orange ce soir. On aura un petit degré à Lille et Aurillac demain matin, mais 6 degrés à Bordeaux, 8 à Lyon et 10 à Brest.
Et sinon, l'après-midi, ça bouge pas beaucoup.
Non, on gardera effectivement un ciel bien encombré. Les nuages gagneront même le nord de la Seine. La montagne et le sud-est resteront au soleil. Il ne fera pas moins de 9 degrés à Metz et à Bourges, 10 à Amiens, Dijon, Montauban. On aura 11 degrés à Dinard, à Paris, à Limoges ou à Lyon, 12 pour Nantes, 13 pour Marseille et on ira jusqu'à 16 degrés à Montpellier.
Élodie Calac de Météo France, merci.